Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mercredi 25 avril 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Jean-Roger Billon.
Nous commençons par les titres.
Faustin Archange Touadéra veut davantage de casques bleus en République centrafricaine.
Le tribunal de Djibo dans le nord du Burkina Faso fermé jusqu'à nouvel ordre pour raison de sécurité.
Au Nigeria, des éleveurs musulmans tuent 2 prêtres catholiques et 16 fidèles dans une église du centre du pays.
Le président américain Donald Trump et son homologue français Emmanuel Macron veulent davantage de pourparlers sur l'accord au sujet du nucléaire iranien.
Et ne manque pas notre page sport ainsi que la minute écho.
Pour l'instant, le journal.
Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a réclamé hier, devant l'Assemblée générale de l'ONU, davantage de casques bleus. Il a demandé qu'il s'agisse de manière plus offensive dans son pays, toujours largement sous la coupe de groupes armés. Nous lançons à nouveau un appel au renforcement des effectifs de la MINUSCA et par des contingents opérationnel et professionnel, a déclaré le président Touadéra lors d'une réunion de 2 jours consacrée au maintien de la paix. La Centrafrique souhaite aussi que la mission de la force de l'ONU passe du maintien de la paix à l'imposition de la paix afin d'éviter de faire échec aux efforts de consolidation et de pérennisation de la paix, a aussi dit Faustin Archange Touadéra.
Le tribunal de Djibo, dans le nord du Burkina Faso, frontalier du Mali, est fermé jusqu'à nouvel ordre pour raison de sécurité. L'administration pointe du doigt le risque encouru par les magistrats dans cette zone, en proie à des attaques récurrentes des djihadistes. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
C'est à l'issue d'une assemblée générale tenue lundi soir que les acteurs judiciaires ont décidé de suspendre toute activité pour des raisons de sécurité. Depuis hier, tous les fonctionnaires du tribunal de Djibo ont rejoint Ouagadougou pour fuir l'insécurité et les persécutions dont ils font l'objet de la part des djihadistes dans cette zone frontalière au Mali. Si des mesures ne sont pas prises, nous ne rejoindrons pas nos postes, à l'ancien magistrat qui a requis l'anonymat. Rodrigue Bayala, secrétaire général du syndicat des avocats, déplore une situation vraiment triste, appelant le gouvernement à prendre des dispositions pour que leur sécurité soit assurée et que le palais de justice puisse rouvrir dans les prochains jours. Le nord du Burkina est le théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis 2015 qui ont fait, selon un bilan officiel, 133 morts dans au moins 80 attaques. Les habitants de la zone vivent dans la psychose des attaques qui ont déjà causé la mort de plusieurs civils. Sous-équipées, les forces de sécurité ont du mal à enrayer les attaques récurrentes dans cette région du Sahel burkinabé.
Au Nigeria, 2 prêtres catholiques et 16 fidèles ont été tués hier dans l'attaque d'une église attribuée à des éleveurs musulmans dans le centre du pays. Le point avec Marie Benson.
Une trentaine d'hommes armés ont attaqué mardi matin le village de Mbalom pendant une cérémonie de funérailles. 16 corps de fidèles ont été découverts, et ceux de 2 prêtres dans une église. Terhemen Nangor, un habitant de Mbalom, affirme que les gens, dans un vent de panique, ont commencé à courir et à crier. Une vingtaine d'entre eux ont été abattus de sang-froid, et les assaillants ont ensuite pillé le village avant de prendre la fuite. À Makourdi, un village voisin, des centaines de jeunes ont protesté contre cette tuerie. La police est intervenue avec du gaz lacrymogène pour les disperser. Le président Muhammadu Buhari a condamné un crime odieux, promettant de traduire en justice les auteurs. La région est le théâtre d'attaques meurtrières récurrentes. Agriculteurs sédentaires et éleveurs nomades se disputent l'accès à l'eau et à la terre. Selon plusieurs ONG, ce conflit en 2016 a fait 175 000 déplacés et plus de 2500 morts.
L'homme d'affaires Vincent Bolloré et des cadres de son groupe ont été placés en garde à vue mardi matin à Nanterre. La justice enquêtant sur des soupçons de corruption entourant l'obtention par son groupe de concessions portuaires en Afrique de l'Ouest. Selon l'AFP, des juges d'instruction tentent de déterminer si le groupe Bolloré a utilisé les activités de conseil politique de sa filiale Avas pour se voir attribuer la gestion des ports de Lomé au Togo et de Conakry en Guinée via une autre de ses filiales, Bolloré Africa Logistics, anciennement appelé SDV. Dans un communiqué, le groupe Bolloré a formellement démenti avoir commis des irrégularités en Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le gouvernement israélien renonce à son plan d'expulsion de migrants africains entrés illégalement dans le pays. Tel Aviv n'a trouvé aucun pays qui accepte de les accueillir. Abdourahman Dia.
Le conseiller légal du gouvernement israélien a informé la Cour suprême de l'abandon du projet d'expulsion, citant le refus de certains pays tiers d'accueillir les migrants. Les pays en question n'ont pas été précisés, mais le Rwanda et l'Ouganda avaient été largement cités comme étant les pays avec lesquels Israël avait négocié pour l'accueil des migrants expulsés. Ces expulsions visaient une partie des 42 000 migrants d'origine érythréenne et soudanaise vivant illégalement en Israël. Ce plan avait suscité de nombreuses critiques, notamment du HCR, de survivants de l'Holocauste et d'une partie de la société civile en Israël. Le gouvernement avait proposé 3 500 $ à chaque migrant qui accepterait de quitter Israël volontairement ou risquer d'aller en prison. Début avril, le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait annoncé un autre programme, assurant qu'un accord avec l'ONU allait permettre de transférer les migrants vers des pays comme le Canada, l'Allemagne ou l'Italie. Ces pays avaient assuré ne pas être au courant, contraignant Netanyahou à en volte-face et à l'annulation quelques heures plus tard de cet accord.
Ici à Washington, le président américain Donald Trump s'est engagé hier à trouver un terrain commun sur l'Iran avec son homologue français Emmanuel Macron, sans pourtant promettre de respecter l'accord sur le nucléaire iranien qu'il a qualifié d'insensé et de ridicule. Recevant M. Macron et sa femme Brigitte Macron pour un dîner d'État à la Maison-Blanche, M. Trump a répété ses critiques contre cet accord, estimant qu'il ne s'attaque pas au programme de missiles balistiques de l'Iran et ou ses tentatives de fomenter des troubles dans la région. Avant le dîner d'État, M. Trump et M. Macron avaient appelé à davantage de pourparlers avec Téhéran, mais n'ont donné aucune indication claire sur les intentions de M. Trump quant à un retrait américain de l'accord actuel. Le président américain avait aussi lancé une sévère mise en garde à Téhéran si les Iraniens venaient à relancer leur programme nucléaire.
Pour la suite de sa visite d'État aux États-Unis, Emmanuel Macron s'exprime aujourd'hui devant le Congrès américain où il pourra exposer sa vision du monde. Le président français va plaider pour une action commune pour réinventer l'ordre mondial du 21e siècle. Il va évoquer, a indiqué notamment son entourage, les relations historiques entre la France et les États-Unis, mais confrontés à de nouveaux défis comme l'accroissement des inégalités, la dégradation de la planète, le terrorisme, les attaques contre les valeurs démocratiques et la montée des nationalismes.
Nous reviendrons sur la visite du président Macron à Washington dans la seconde partie de cette édition. Par ailleurs, le président Trump a exhorté hier Pyongyang à éliminer tout son arsenal nucléaire avant un sommet attendu avec les dirigeants nord-coréens. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le président Donald Trump a déclaré que la Corée du Nord devrait se débarrasser de ses armes atomiques. Il a annoncé en mars dernier qu'il acceptait une invitation à rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un d'ici juin. Je pense que ça va être très positif, a laissé entendre hier le président américain à propos de ce sommet inédit. Depuis 25 ans, les gens se sont engagés dans des tractations et rien ne s'est passé. Et maintenant, beaucoup de choses se passent, a ajouté M. Trump. Il a salué l'attitude du dirigeant nord-coréen, estimant qu'il a été ouvert et a eu un comportement honorable. Le chef de la CIA et probable futur secrétaire d'État, Mike Pompeo, s'est rendu dans la capitale nord-coréenne pendant le week-end de Pâques. D'après Donald Trump, je cite, « il a eu une bonne rencontre avec Kim Jong-un ».
Un juge fédéral a ordonné à l'administration Trump de continuer à protéger contre toute mesure d'expulsion quelques 800 000 jeunes clandestins, appelés les Dreamers, qui étaient arrivés très jeunes aux États-Unis en compagnie de leurs parents, désavouant clairement les efforts du président Trump pour mettre fin au programme DACA qui protège ces Dreamers. Le juge John Batts a également donné l'ordre au département de la sécurité intérieure d'accepter de nouvelles candidatures à ce programme pour la première fois depuis son adoption en 2012. Selon le juge, la décision de l'administration Trump d'abroger DACA était illégale.
La Cour suprême des États-Unis examine en profondeur ce mercredi le décret migratoire du président Donald Trump, phase finale d'une âpre bataille judiciaire de 15 mois autour de cette mesure extrêmement controversée. Les opposants au décret l'accusent de cibler les musulmans alors que la Constitution américaine interdit la discrimination religieuse. Pour la Maison-Blanche, le décret migratoire s'inscrit pleinement dans les attributions du président définies par le Congrès. Il est libre de resserrer les frontières des États-Unis s'il le juge nécessaire au nom de la sécurité nationale. Le président américain Donald Trump martèle que le décret vise à empêcher l'entrée de terroristes étrangers en Amérique. La Cour suprême rendra son arrêt d'ici fin juin. La Minute Écho, Eric Manirakiza.
Le groupe français Bolloré a démenti formellement avoir commis des irrégularités dans des activités en Afrique. C'est à la suite du placement en garde à vue de son PDG Vincent Bolloré pour des soupçons de corruption autour de l'attribution de concessions portuaires en Guinée et au Togo. Bolloré veut investir 300 millions d'euros en 2018 sur le continent africain. Il est présent dans 46 pays. Ces activités africaines ont généré 2,5 milliards d'euros l'année passée. La Tunisie et l'Union européenne veulent conclure leur accord de libre-échange en 2019. Il sera complet et approfondi. Les négociations ont démarré officiellement en octobre 2015, malgré des réticences de certains économistes tunisiens qui craignaient notamment une libéralisation à marche forcée de l'économie du pays. Le premier ministre tunisien Youssef Chared, en visite à Bruxelles, a obtenu l'exportation de 30 000 tonnes d'huile d'olive supplémentaire vers l'Union. L'Italie et la Grèce étaient pourtant opposées à l'augmentation de quotas. La Tunisie est le deuxième producteur mondial d'huile d'olive après l'Espagne et l'Union européenne est son principal débouché à l'export avec 56 000 tonnes. Le gendarme américain de la bourse a infligé à Altaba ex-Yahoo une amende de 35 millions de dollars pour avoir dissimulé jusqu'en 2016 un piratage massif de données personnelles d'utilisateurs remontant à 2014. La révélation des piratages avait failli faire capoter le rachat de Yahoo par Verizon, qui avait finalement négocié une ristourne pour cette raison. Au final, Verizon a racheté pour 4,5 milliards de dollars le cœur de métier de Yahoo, portail, internet, mail, etc.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
L'Égypte peut respirer, El Nini sera opérationnel pour le mondial.
Tout à fait Idrissa, bonne nouvelle hein, pour les pharaons. Blessé à la cheville dimanche contre West Ham et sorti sur civière, le milieu de terrain d'Arsenal, Mohamed El Nini sera rétabli pour le mondial 2018. C'est ce qu'a affirmé le sélectionneur adjoint des pharaons Mahmoud Fayez. En revanche, le Gunner va être éloigné des terrains durant 3 semaines et il manquera sûrement les demi-finales de l'Europa League contre l'Atlético Madrid.
Le Bayern et le Real s'affrontent ce soir en demi-finale de la Ligue des Champions.
Bavarois et Merengue visent chacun un triplé historique sur une saison pour le Bayern. En Ligue des Champions pour le Real Madrid, la Casablanca a d'ores et déjà perdu la Liga et la Coupe d'Espagne et n'a plus que la Ligue des Champions pour sauver sa saison. En cas d'élimination du Bayern, les Madrilènes seront aux portes de records fabuleux, devenus les premiers à gagner 3 fois de suite la C1 dans sa formule moderne. De son côté, le Bayern est déjà champion d'Allemagne et jouera la finale de la Coupe en mai contre Francfort. Pour l'heure, les Bavarois doivent faire attention pour ne pas réécrire le mauvais scénario du match aller de la saison dernière à domicile, match perdu 1-2 devant le même Real Madrid.
Hier, Liverpool de Salah et Mané a pris une sérieuse option pour la finale.
Les Reds ont fait un grand pas vers la finale en s'imposant 5-2 face à la Roma. Grâce à 2 buts et 2 passes décisives de Mo Salah en demi-finale aller, l'incroyable Pharaon a encore fait chanter en file. 2 éclairs de génie en première période ont fait basculer le match et 2 passes bien sorties contre son ancienne équipe. En seconde période, on met Liverpool en bonne position pour aller chercher sa première finale en Ligue des Champions. Et depuis 2007, les Reds avaient le match en main menant 5-0 avant de prendre 2 buts dans les 10 dernières minutes, de quoi redonner des espoirs de remontada à une AS Rome qui avait déjà joué un bien mauvais tour au FC Barcelone en quart de finale. NBA pour terminer avec vous, Idrissa, les résultats des matchs de play-off la nuit dernière.
Les Philadelphia Sixers ont battu le Miami Heat 104 à 91 pour éliminer cette équipe des playoffs, 4 victoires à 1. Les Sixers se qualifient donc pour le second tour. Les Golden State Warriors se qualifient aussi pour le second tour en battant de leur côté les San Antonio Spurs 99 à 91 pour remporter leur série 4 victoires à 1. Boston a battu Milwaukee 92 à 87, menant leur série 3 victoires à 2. De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Fin de la visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis ce mercredi, le président français prononcera un discours devant le Congrès américain. Hier, il a été reçu à la Maison-Blanche par son homologue Donald Trump. Les deux hommes ont tenu une conférence de presse où il a été beaucoup question de l'Iran. Nicolas Pinault était sur place pour VOA Afrique. Son reportage.
Et c'est avec plus d'une heure de retard sur le programme que les deux présidents se sont présentés face à la presse. Les discussions dans le bureau ovale se sont prolongées en raison notamment de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 dont le président américain menace de sortir. Donald Trump estime que la précédente administration américaine a été trop généreuse avec Téhéran.
Les États-Unis et la France sont d'accord pour dire que l'Iran ne peut pas être autorisé à développer des bombes nucléaires. Et ces régimes doivent arrêter de soutenir les terroristes. Peu importe où vous allez au Moyen-Orient, vous voyez les empreintes de l'Iran dans des problèmes.
Côté français, pour la première fois, Emmanuel Macron évoque sa volonté de négocier un nouvel accord sur le nucléaire, mais qui conserverait l'accord de 2015 en renforçant 3 points.
Ce dont nous avons besoin, c'est de couvrir 4 sujets essentiels. Le premier, c'est de bloquer toute activité nucléaire de l'Iran jusqu'en 2025. C'est ce que seul permettait de faire le JCPOA. Le deuxième, c'est de nous assurer qu'à plus long terme, il n'y ait pas d'activité nucléaire iranienne. Le troisième sujet essentiel, c'est de pouvoir stopper les activités balistiques de l'Iran dans la région. Et le quatrième point essentiel, c'est de créer les conditions d'une stabilité politique dans la région et donc de mieux contenir la domination iranienne et ses positions en Irak, en Iran, au Yémen, comme l'influence qu'elle a sur le Liban.
Donald Trump dira d'ici le 12 mai prochain s'il certifie ou non l'accord de 2015 qui avait été conclu après des années d'âpres négociations entre l'Iran et le groupe 5+1, l'Allemagne, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie.
Retour sur le premier meeting de l'opposant congolais Félix Tshisekedi en tant que président de l'UDPS. Mardi, à la place Sainte-Thérèse de Ndjili à Kinshasa, devant plusieurs milliers de militants et de sympathisants du principal parti d'opposition en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui a récemment succédé à son père à la tête de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 et lancer une campagne de collecte de fonds pour l'appuyer. Reportage de Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
S'adressant en Lingala à de nombreux militants et sympathisants de son parti, Félix Tshisekedi a passé en revue toutes les questions d'actualité de l'heure tout en restant focalisé sur les élections à venir. D'entrée de jeu, il a précisé que les efforts consentis les semaines dernières par l'opposition à travers marches et déclarations produisent des fruits aujourd'hui. Félix Tshisekedi rappelle donc sa détermination à poursuivre le combat et appelle le pouvoir à la libération des prisonniers politiques dans le cadre du processus de décrispation.
Nous sommes les gens qui, basant sur le peuple Ils vont décourager.
J'ai appris qu'ils ont dit que le peuple est découragé parce que nous n'avons pas atteint nos objectifs, notamment dans l'organisation de nos marches et de la transition sans Kabila. Mais je dois vous dire une chose, la lutte pacifique présente deux facettes. Parfois il y a des échecs, mais aussi il y a la victoire. Ne vous découragez pas. L'activité que nous avons organisée aujourd'hui, ce n'est pas un cadeau. Elle est la conséquence des pressions que nous avons exercées sur le pouvoir. C'est pourquoi je demande aux voisins de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Il y a une chose qu'ils doivent faire. C'est la décrispation. Ils doivent libérer nos amis qui croupissent encore en prison.
Pas de machine à voter, a-t-il dit par la suite d'un ton ferme pour revenir sur le processus électoral. Leur machine est une machine à tricher. Le fichier électoral est corrompu et mérite un sérieux audit de l'Organisation internationale de la francophonie et des experts locaux car il pourrait y avoir encore environ 8 millions de doublons présents dans ce fichier, a déclaré le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Félix Tshisekedi a par ailleurs démenti tout contact avec le régime de Joseph Kabila, je cite, dans un autre cadre et sujet que celui du retour de la dépouille de feu Étienne Tshisekedi, fin de citation. Vous m'avez élu à plus de 98% président de l'UDPS et m'avez demandé de me présenter à l'élection présidentielle. Ce n'est pas pour être encore candidat Premier ministre, a-t-il déclaré sous les applaudissements du public. Toujours à l'intention des militants de son parti, Félix Tshisekedi a annoncé une campagne d'$1 par militant pour financer les élections de décembre prochain, tout en rappelant son engagement de très vite mettre en place une équipe dynamique qui va avec lui conduire l'UDPS à la victoire lors des élections du 23 décembre 2018. Satisfait, quelques militants et combattants de l'UDPS ont salué la prestation de leur président et promis de soutenir son combat.
Il nous a beaucoup éclairci qu'on va aller aux élections pour éviter les troubles dans notre pays. À 100%, l'UDPS va gagner l'élection parce que nous sommes le parti populaire.
Il nous a rassuré que non, il va nous remporter la victoire dans ces élections-là.
Étant un parti écologique, on veut m'accaparer dans là où il a épinglé l'écologie. Comment est-ce que ça peut marcher dans notre pays écologiquement?
Kinshasa. Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le groupe d'Agiforce Free, qui veut dire vérité concrète, est à Washington à l'occasion des rencontres de printemps de la Banque mondiale. Le thème de cette année, la résilience des réfugiés. Accompagnés d'un orchestre symphonique, ils ont chanté lundi au siège de l'organisation. Au micro d'Ekia Badou, les rappeurs Moussa et Ablaï Mbaï ont expliqué pourquoi le thème des migrants clandestins les touche particulièrement.
On est venu porter le message de la jeunesse africaine sur cette pauvreté atroce qui est en train d'asphyxier l'Africain et qui pousse à se jeter dans la Méditerranée, à aller mourir dans le désert ou devenir esclave sur la route de la Libye. Voilà un peu le message que Doug Dufosui aimerait faire entendre au monde entier.
Tous ces jeunes qui se disent, mais eux, ils nous parlent de pouvoir partir en règle, mais eux, ils ont la chance de pouvoir avoir des visas. Quels conseils vous avez envie de donner?
Quand on parle aux jeunes guinéens, aux jeunes de la sous-région ouest africaine, c'est une jeunesse qui sait que Doug Dufosui a démarré avec rien du tout. Avant de commencer à tourner à l'international, a pris sa destinée en main et a mis un label de production, un petit studio qui est devenu aujourd'hui une référence en matière de production, qui a un gros festival qui produit aussi des artistes internationaux tels que la section d'assaut, Sidiki Diabaté.
Beaucoup de Français, beaucoup d'Africains. Donc tout cela prouve qu'on peut voir que oui, les conditions
conditions ne sont pas forcément réunies pour les jeunes qui nous regardent et qui pensent que mais eux ils vont, pourquoi pas nous. La réponse la plus simple, c'est faut rester parce qu'il faut préserver sa vie. Deuxièmement, ce qu'il dit, c'est ça, il faut entreprendre. Nous, on a un exemple typique guinéen. Aujourd'hui, les plus riches du pays sont des commerçants. Mais ils ont commencé comment? Ils ont commencé en tant que sireurs. Ils sont venus direct de l'intérieur du pays, du village. Après, ils ont fait un petit tablier au bout de 6-8 mois. Après, ils ont fait une petite boutique comme 1 mètre carré ou 2 mètres carrés, pas plus. Et au départ, ils parlent de visa, personne ne veut leur donner. Mais aujourd'hui, ils sont demandés partout dans le monde et ils vont légalement. Et c'est les plus riches parce qu'ils font descendre des centaines de conteneurs de 40 pieds dans le pays. Aujourd'hui, ils desservent non seulement la Guinée, mais toute la sous-région, le Sénégal, la Sierra Leone et tout.
Et des illettrés, à la base, qui aujourd'hui, c'est les plus gros opérateurs économiques de ce pays.
À travers votre art, est-ce qu'on peut vous entendre conseiller les jeunes à travers votre dernier titre?
Abemuna allo pari dollar na États-Unis.
La traversée furieuse des déserts arides, des dunes de sable à perte de budget perdu Malik. J'ai cru avoir un bon deal, le pasteur m'a dit que c'est tout facile, tout près le paradis. Le désert, son visage et sa misère, la mort dans la peau, les charognards, les vipères. J'ai eu si soif que j'ai bu ma pisse, loin de ma famille, je vis l'enfer, j'agonise.
Il est désormais interdit d'importer de tilapia au Togo. La mesure saluée par les Togolais est motivée par, selon le gouvernement, par le souci de protéger la pisciculture locale. Pendant ce temps, les importateurs grincent des dents du fait que la décision n'est pas assortie d'une période moratoire pour leur permettre d'écouler les stocks existants. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Le 16 avril dernier, par un arrêté interministériel, le gouvernement togolais a interdit l'importation, la vente et la consommation des tilapias produits dans des pays autres que le Togo. Cette décision, selon le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, vise à protéger le bassin togolais du virus du tilapia lacustre. Dr Ibrahim Barry, le directeur de l'élevage par intérim.
C'est pour protéger nos élevages piscicoles. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le gouvernement est en train de relancer le sous-secteur de la pêche et notamment de la pisciculture. Si ce virus venait à rentrer dans le pays, ça veut dire que les pisciculteurs vont perdre. Parce que quand ce virus rentre dans un bassin, c'est 90 à 100% de mortalité de poissons. Contrairement à ce que les gens racontent un peu partout, ça n'a rien à voir avec la santé publique. En jargon scientifique, on l'appelle une mesure SPS. Des mesures sanitaires et phytosanitaires.
Pour les Togolais, c'est la confusion totale. Ils croient que cette interdiction relève du domaine de la santé publique.
On fait de ça parce que la santé avant tout. Donc on doit manger propre et bio. Des fois, les produits importés sont intoxiqués. Ça infecte la population. Donc nous avons préféré de manger les tilapia frais.
Déjà, c'est une bonne chose, mais il faudrait vraiment sensibiliser la population togolaise et leur dire les conséquences qui peuvent découler de la consommation de ces tilapia-là.
C'est une très très bonne décision parce que c'est notre santé qui est prise en compte. Sinon, on a appris comme quoi ces tilapia importés contiennent des éléments qui ne sont pas bonne pour notre santé. Donc.
Nous saluons l'adhésion du gouvernement. Il se soucie de la santé de la population. Ce n'est pas souci sanitaire que moi je ne consomme plus les produits congelés.
Pour Jacques Sivomé, directeur de Hestal Togo et importateur de produits congelés, le gouvernement aurait dû accorder un moratoire.
C'est l'association des importateurs de produits congelés qui a décidé d'arrêter l'importation de tilapia d'une façon provisoire pour soutenir la production locale. La décision du ministre est venue trop tôt par rapport aux stocks flottants ou existants. Il aurait fallu qu'on se concerte afin d'arrêter un deadline, quoi, une date limite ou un moratoire. Il y a encore du tilapia sur le marché, certains ont beaucoup plus de stocks que d'autres, il faudrait quand même qu'ils les écoulent.
L'article 6 de l'arrêté portant interdiction provisoire d'importation de tilapia au Togo stipule que le tilapia élevé ou pêché dans les eaux togolaises ne comporte aucun risque et peut être consommé sans crainte. Une disposition qui laisse croire que le gouvernement togolais avance sur le terrain du protectionnisme. Kay Lawson, Lomé pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Mountou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h, tout universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et à Sims Lumami pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.